France Musique.
You got it. Got the white. Got the white. Got the white.
Sei pünktlich. Sei pünktlich. Komm nicht zu spät. Komm nicht zu spät. Komm nicht zu spät.
Bonjour, bonsoir, c'est à pleine voix, enregistré donc depuis la Bibliothèque nationale de France François Mitterrand. Il y a un mois, on recevait autour de cette table le compositeur Philippe Manoury et le musicien et réalisateur en informatique musicale à l'IRCAM Greg Beller. Et on évoquait différents modes de transformation de la voix en temps réel autour du prochain opéra de Manoury, Kein Licht, une commande de l'opéra comique, étant entendu donc que la technologie peut ainsi s'amuser des espaces de la voix, en créer des nouveaux, voire d'improbables, ou tout simplement d'apporter un soutien à celle-ci. Aujourd'hui, donc, on va poursuivre cette exploration des espaces de la voix. On va s'intéresser notamment aux différents dispositifs de sonorisation de la voix, au concert, à l'opéra, au théâtre. Et nous avons le plaisir d'accueillir l'ensemble musical Le Balcon, du moins son représentant, l'ingénieur du son Florent Derex. Bonjour Florent.
Bonjour.
Vous êtes fondateur avec Maxime Pascal de l'ensemble Le Balcon et vous en assurez maintenant la direction. Je salue également le compositeur Michael Lévinas. Bonjour. C'est un grand honneur, Michael, que vous ayez accepté de venir. On se connaît un peu, mais là on va se vouvoyer, hein, c'est normal. Et Michael a le plaisir de travailler régulièrement avec Le Balcon, on en reparlera. Nous parlerons également du son au théâtre avec Joël Hudevant. Bonjour Joël, vous dirigez donc le département des arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France avec ses fonds absolument fascinants. Et je présente enfin Marie-Madeleine Nervanroux, chercheure en études théâtrales, directrice de recherche émérite au CNRS. Les chanteurs, sans doute encore plus que les comédiens, ont évidemment une conscience très aiguë de ce qu'une salle fait à leur voix, avec la nécessité absolue de s'ajuster, de se familiariser avec son acoustique. On sait les contraintes toujours plus grandes sur les voix lyriques. On dit même d'ailleurs de façon assez officieuse que dans la gigantesque salle du Metropolitan Opera de New York, une salle de 4000 places quand même, certaines voix sont parfois sonorisées, à confirmer. En tout cas, une chose est sûre, pour la voix parlée qui projette moins, ça on en parlera peut-être ce soir, qui projette moins que la voix chantée, et bien de nombreuses salles, y compris l'Opéra Bastille, sont amenées à offrir des supports de sonorisation douce de la voix. Alors qu'en a-t-il été de la grande salle du Palais de Chaillot, devenue en 1951 l'antre de Jean Villard, marquée par les grands spectacles du Théâtre National Populaire, qui commençait souvent les spectacles par une fanfare? Je sais qu'il y en a eu plusieurs, mais on en a choisi une.
Mesdames, Messieurs, la représentation commencera dans 5 minutes.
On est tout de suite placé à l'intérieur d'un espace qui est ce Théâtre National de Chaillot. Donc, pour parler du son au théâtre, on a le grand plaisir de recevoir une chercheure qui a fait figure de pionnier, en fait, dans les études théâtrales, qui s'est intéressée au son et dans le monde académique. Il faut savoir, et c'est quelque chose de tout à fait banal et attendu pour les artistes, mais dans le monde académique, le monde de la recherche, on s'est peu intéressé à la dimension du son au théâtre. Marie-Madeleine Mervanroux, en plus, en ce moment, vous conduisez un important programme, en fait, autour de ces questions, je crois.
Oui, ce programme s'appelle Écho. Il s'intéresse à la voix parlée au théâtre, à la façon dont la scène, en France, a parlé des années 50 aux années 90.
Alors, Écho, c'est un acronyme. Vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur Écho.
Alors, on a d'abord eu Écho, et après, on a cherché comment le justifier, comme ça arrive souvent. Donc, nous avons trouvé écrire l'histoire de l'oral, mais pour préciser cette formule qui en fait est assez vague et assez mauvaise, mais nous tenions à écho, nous avons dit mouvement au pluriel du phonique, qui veut dire à la fois voix et son, dans l'image scénique. 1950-2000.
Marie-Madeleine, donc 1950, on en arrive donc à ses premiers pas de Jean Villard au Théâtre de Chaillot, une salle gigantesque. Il y a eu des grands concerts qui ont été donnés durant l'occupation dans cette salle qui pouvait contenir, on disait à l'époque, 3500 places. Il semblerait que c'était pas forcément cette jauge-là qui était la jauge exacte.
Le chiffre le plus sérieux, quand Villard est arrivé, est encore énorme, c'est 2800 places. Je propose d'entendre d'abord Villard en parler. Je reviendrai après sur la salle.
C'est une scène étrange. On en a à la fois une espèce d'affection pour elle et à la fois une espèce de rebut. Camus disait que d'elle, un jour, passant sur ce théâtre, il me dit « Mais c'est un champ de manœuvre. » Presque. Disons nettement que lorsque, en 1937, on a posé à l'architecte la question faire un théâtre, le gouvernement lui a peut-être pas dit ce qu'il voulait comme théâtre. Quel problème? Je m'imagine à la place de l'architecte. Que faire? On ne vous demande pas si ce sera pour l'opéra, pour des conférences, pour du théâtre dramatique. Et quelle forme de théâtre dramatique? Si ce sera pour du théâtre classique, non, on vous dit faites-nous un théâtre. C'est comme on vous disait, écoutez, faites-nous un hôpital et puis débrouillez-vous. Je pense que au moins les médecins fournissent à l'architecte des données. Là, Monsieur Carleu, dont par ailleurs j'ai des rapports avec lui extrêmement agréables, je comprends son drame.
Il vous a donc fallu lutter avec ce cadre, lutter avec cette scène. Comment avez-vous procédé?
En l'agrandissant. Mais en l'agrandissant à la face, comme nous disons, c'est-à-dire en avançant dans la salle. Il y a des pièces qui nous ont aidés à découvrir ce que nous permettrait de faire la scène de Chaillot. Il y en a une, qui n'est pas une œuvre française. C'est Le Prince de Hombourg. Le ton vif et en même temps poétique. Les drapeaux, le ton lyrique et en même temps réaliste, nous a permis, par Le Prince de Hombourg, de voir le genre de répertoire que nous pourrions avoir sur cette scène.
C'était Jean Villard, donc en 1956, dans un entretien avec le producteur Luc Bérimont, grand producteur de radio, Marie-Madeleine Mervon.
Alors maintenant, on peut parler de cette salle, parce qu'il y a le bâtiment de Carleu, mais la salle, elle, a été confiée aux frères Niermans. Et il y a eu, en 37, et ça nous a étonnés quand nous l'avons appris, l'intervention d'un acousticien. Ce qui était très rare à l'époque en architecture. Alors malgré la présence de l'acousticien et les efforts déployés, cette salle a, dès le début, une acoustique très médiocre, très mauvaise, d'autant que c'est pire que ce que Villard suggère. En fait, les architectes ont dû concevoir une salle pour différents objectifs. On leur a demandé de faire à la fois une salle de conférence, un opéra, une salle de cinéma, une salle de réunion et un théâtre. On dit théâtre de Chaillot, mais en réalité, le programme couvre un éventail absolument impossible à réaliser. La salle fait 41 mètres de long, 37 de large, 17 mètres de haut. Le plateau fait 34 mètres de large, 13 mètres de profondeur, 19 mètres de hauteur maximale. Au problème de vision dont parle Villard dans l'entretien que vous avez entendu, s'ajoutent des problèmes d'audition. Or, la solution trouvée avec Jarre pour Le Prince de Hombourg est une solution musicale, sonore. Donc nous allons écouter Jarre en parler et puis nous reviendrons à l'acoustique de la salle de Chaillot.
La première musique que Jean Villard m'avait demandée, c'était la musique pour Le Prince de Hombourg et ça se situait, je crois, en 1950. Un an exactement avant la nomination de Jean Villard à la tête du Théâtre National Populaire. Et d'ailleurs, j'étais venu à Avignon une année avant avec le groupe du Théâtre Antique de la Sorbonne en tant que musicien. Je jouais de la percussion dans le spectacle des Perses et j'avais écrit aussi une musique pour le Théâtre de la Sorbonne. D'autre part, j'avais été imbu de la lecture des œuvres d'Artaud, d'Antonin Artaud, et spécialement le Théâtre et son double, ou le Théâtre et la Peste. et dans lequel il décrit, selon lui, la formule idéale de la musique et des sons au théâtre. Et c'est ce que j'ai essayé de faire immédiatement dès que je suis venu chez Villard, si bien que lorsque je suis arrivé à Avignon pour le Prince de Hambourg, pour la musique du Prince de Hambourg, j'avais toute ma culture de Artaud avec moi et tous mes états d'idées qui à ce moment-là étaient nouvelles, de stéréophonie à l'intérieur de la salle, stéréophonie non électronique, mais une stéréophonie vivante. Par exemple, dans le Prince de Hambourg, Villard avait situé la bataille derrière les spectateurs, comme si l'audience était entre les Prussiens et la ligne de la bataille. Donc, moi, j'avais mis mes trompettes et mes tambours et tous mes instruments derrière les spectateurs. Il y avait des fanfares de chaque côté de la salle. Et puis, dans ce merveilleux lieu théâtral d'Avignon, qui est la cour du Palais des Papes, nous avions pu faire des tas d'expériences et mettre les musiciens dans des endroits extrêmement différents, si bien que les gens, vraiment l'audience, avaient l'impression d'être absolument entourés de musique. C'est de là où est née finalement l'importance de la musique chez Villard, puisque le fait de n'avoir pas de décor, la couleur locale étant absente, la couleur sonore avait la prépondérance.
Quel rêve étrange m'a visité. Un château royal étincelant d'or et d'argent m'est apparu soudain, laissant du haut de ses escaliers de marbre descendre en cortège vers moi les personnes qui me sont le plus chères. L'électeur, son épouse, et puis une troisième. Mais qui était-ce donc ?
Qui ?
Celle à qui je pense, je ne connais qu'elle.
Suzanne ?
Mais non, mon cher.
Marguerite ?
Non, tu n'y es pas.
Hélène, Charlotte, Marie-Madeleine ?
Non, tu ne vois pas, les arbres te cachent la forêt.
Eh bien, parle, à qui penses-tu ?
Aucune importance.
Donc un tout petit extrait hein, de ce prince de Hambourg. Vous aurez reconnu la voix de Gérard Philippe, reconnaissable entre toutes, hein, Marie-Madeleine Mervanhaut.
Oui, la plus étudiée en tout cas des voix du TNP.
Michael Levinas, vous connaissez bien cette salle. Hein.
J'avoue, ça ne rajeunit pas obligatoirement, que j'ai vu Jean Villard dans Thomas More à Chaillot. Et j'ai entendu aussi, parce que vous n'en avez pas dit, mais c'était une salle de concert.
Oui, avec il y avait Padlou. Beaucoup de concerts.
Alors, j'ai un souvenir, c'était mon cadeau de soir de concours, vous voyez, des petits au conservatoire, je suis allé en famille, j'ai été frappé par l'esseulement de la voix dans le lieu,
oui.
Que j'ai attribué, je n'étais pas acousticien, mais tout de même, j'ai attribué aux matériaux de l'ensemble du théâtre de Chaillot, très métallique, si j'ai bien souvenir, ça. Et il me semble, et c'est le souvenir que j'en ai gardé, plutôt que de savoir si la salle était adaptée ou pas, que quelque chose, une erreur de fond était dans cette salle à la base. Le principe est tout de même le phénomène de la réflexion du salon d'une salle de théâtre qui permet de renvoyer la voix dans le public. C'est-à-dire le prototype, c'est tout de même le cœur de l'église. Une conque qui renvoie le son. Donc il y avait effectivement cette extrême lenteur de l'oraison de Jean Villard, sans doute réglée par l'acoustique de la salle, qui finissait par entraîner, j'avoue, un ennui acoustique considérable, avec cette espèce de monstruosité du lieu, sans système de réflexion.
Tout le problème est donc de régler cette fichue sonorisation de façon à ce qu'elle amplifie tout en respectant les reliefs subtils de la composition. Donc c'est très difficile, voire impossible. En 51, Jarre apporte à Villard un projet de stéréophonie ou relief sonore qui devait améliorer les choses et représentait un changement radical. Selon ce dispositif, je cite le texte à Villard, qui note en marge « confidentiel, rien à la presse », parce que c'était une première extraordinaire dans un théâtre. La stéréophonie permet un déplacement horizontal, vertical ou diagonal d'un volume sonore, bruitage, musique, parole. Il s'agit de la voix, en particulier. Le document indique « écho ». Paroles chuchotées aux oreilles des spectateurs. Déplacement d'un groupe choral. Le système, est-il dit aussi, conviendrait pour des pièces modernes. Trois noms sont cités, Brecht, Pichette, Curtis. Et les deux co-inventeurs, Bernhardt, auteur du traité de prise de son
José de 49. Bernhardt, un grand preneur de son, compagnon de route de Pierre Schaeffer. Hein, donc c'est vraiment, oui. C'était un virtuose en fait du mixage, de la prise de son. C'est oui.
Il
une
était
espèce
au
de référence absolue pour les ingénieurs du son de la radio.
Oui, il était au fameux stage de Beaune de 42. Et Jean-Wilfried Garrett, donc les deux co-inventeurs, ont été contactés pour un devis. Ces deux inventeurs donc travaillent au club d'essai. Et Bernhardt s'intéresse depuis longtemps à la question des plans sonores, de la sensation directionnelle du son, à l'illusion du mouvement. Il veut se libérer des têtes en plâtre de l'époque et des casques, construire une écoute plus libre qu'il appelle l'écoute dirigée pour les spectateurs. La stéréo dirigée, à la différence de la stéréo classique, n'opère plus seulement à l'enregistrement mais à la reproduction. Elle permet de donner au bruit, au son, à la musique, des mouvements, de les faire bouger dans l'espace. Parallèlement au projet d'application au théâtre dont Joël va parler, donc avec Nucléa, le duo d'inventeurs développe un autre projet. Nous l'avons découvert presque par hasard, tant les activités étaient cloisonnées. Un projet tout aussi inédit pour exploiter ce dispositif, pour le premier son et lumière moderne d'après-guerre, celui de Chambord, dont nous allons écouter la première minute.
Chambord !
Chambord !
Chambord ! Que ce nom sonne comme un écho au fond des bois.
Chambord !
Qui est étonnant, c'est que c'est exactement les mêmes problématiques auxquelles nous on est confrontés en fait aujourd'hui, à savoir qu'est-ce qu'on fait de la sonorisation. Et ce qui m'a beaucoup étonné par rapport à ce que vous disiez, c'était de voir à quel point la sonorisation n'était pas juste en fait un enjeu esthétique par rapport à des problématiques liées à une intelligibilité défaillante. Ou voilà, on n'est pas du tout là en fait. On est vraiment à une démarche artistique forte et en fait de se servir du haut-parleur comme une démarche artistique d'un metteur en scène, d'un directeur de théâtre, ou ce genre de choses.
Oui, dans cette préhistoire de la stéréophonie qu'on entend aussi, Marie-Malena, on va peut-être écouter maintenant qui se faisait à la radio au même moment. Il y avait Chambord, il y avait ce qui se faisait au TNP, et puis au même moment, on inventait la stéréophonie à la radio.
Oui, alors, ce que je viens de raconter, donc Jarre apportant le projet à Villard, c'est ce que j'ai découvert en faisant cette recherche. Mais en études théâtrales, on a un autre récit, une autre façon de raconter la même histoire. Ce serait pour nous non pas le musicien, mais l'acteur Gérard Philippe, qui, ayant joué dans « Une larme du diable » de Théophile Gautier, monté pour la première fois pour la radio par René Clair, le cinéaste, est diffusé le 19 juin 1950 par le club d'essai. Donc c'est lui, Gérard Philippe, enthousiasmé, qui aurait dit à Villard qu'il y aurait peut-être une possibilité d'introduire un tel système au théâtre. Donc nous allons écouter non pas Une larme du diable, mais les minutes qui précédaient, pendant lesquelles l'auditeur, chez lui, avait 8 minutes exactement pour régler ces deux appareils radio, il en fallait deux. C'est un montage, donc nous avons diminué le temps de conseils sur les réglages, supprimé les exemples tests, il reste ce que vous allez écouter.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Dans quelques instants va débuter la seconde diffusion stéréophonique sur les antennes françaises de « Une larme du diable ». L'expérience proprement dite de diffusion stéréophonique va débuter dans quelques instants. Préalablement, certains réglages, d'ailleurs simples, sont à réaliser chez l'auditeur déjà en possession de deux récepteurs. C'est pourquoi nous allons vous donner quelques conseils indispensables pour écouter dans les meilleures conditions possibles la production stéréophonique qui, pour la deuxième fois depuis 1950, va vous être transmise sur les antennes de France 1 Paris Inter et France 2. Afin de vous permettre de mieux ajuster ce réglage des puissances sonores, qui est le seul un peu délicat et qui est d'ailleurs le plus important, je vais continuer à parler d'abord sur la longueur d'onde France 1 Paris Inter, c'est-à-dire que ma voix doit actuellement vous parvenir du récepteur de gauche lorsque vous regardez les appareils. Je vais maintenant me déplacer vers l'extrême droite, c'est-à-dire qu'actuellement, je vous parle sur la longueur d'onde de France 2. Et enfin, je me retrouve en ce moment au centre.
Florent Derex.
Moi, ça me fait penser à un sujet très actuel, en fait, qui sera à comparer aussi, à mon avis, peut-être dans 30, 40 ans, et on verra comment on l'écoute. Mais il y a des procédés, en fait, un peu d'écoute, et de parce que on est en train de faire de la démocratisation de la stéréo, qu'est-ce qu'on peut faire, quelle chance ça ouvre. Et en ce moment, et en plus, Radio France est très en pointe là sur ces sujets-là, puisqu'il y a un projet qui s'appelle le Binaural Listening, qui réfléchit aux aspects de l'écoute au casque, donc ce qu'on appelle l'écoute binaurale, qu'on pourrait résumer par la 3D sonore. Je crois que même c'est de Radio France qui a dû faire une espèce de bande test en fait pour présenter le binaural.
Oui, sur le site de Radio France, on peut même entendre des pièces déjà en binaural sur Internet. C'est intéressant.
Et on explique un peu la même chose. On met le casque, c'est à gauche, c'est à droite, il faut tourner. Vous entendez la petite bille qui arrive derrière. Donc du coup, voilà.
Joël Ludvol, je crois que pour la pièce Nucléa dont vous allez nous parler maintenant, ce premier exercice de stéréophonie dirigée, c'était révolutionnaire, j'imagine, pour les hommes de théâtre.
Ah oui, c'était tout à fait une première dans l'histoire du théâtre que d'employer la stéréophonie dans le cadre d'une programmation théâtrale. Et ce spectacle Nucléa d'Henri Pichette est aujourd'hui bien oublié, mais il a fait l'ouverture du TNP en face de L'Avare de Molière, mis en scène par Jean Vilar. Et Jean Vilar avait choisi, de manière très audacieuse, très volontariste, de mettre à l'affiche de son théâtre, et Dieu sait si l'ouverture du TNP était un événement important, en face d'un grand classique, un contemporain, un poète. Henri Pichette était un poète connu à l'époque pour une pièce, Les Épiphanies, qui a été jouée au Théâtre des Noctambules en 1947, qui avait fait pas mal de remous à l'époque dans la distribution, Maria Cazares, Gérard Philippe, excusez du peu. Cette pièce-là a sans doute donné l'envie à Gérard Philippe et à Jean Vilar, qu'il avait vu à l'époque, d'amener cette voix poétique au TNP. Donc, en fait, cette pièce donc, pour laquelle on applique pour la première fois la stéréophonie est un grand poème. Il faut imaginer ça, la grande salle de Chaillot, on choisit d'y jouer une pièce entièrement poétique d'emblée. Donc on a vraiment affaire à un texte qui porte en lui la profération, et on va voir que dans Nucléa, en fait, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que les comédiens sont comme emportés par cette prose tout à fait incroyable. Alors, le texte, il a été écrit par Pichette, mais en lien aussi avec Gérard Philippe, c'est des amis très proches, donc Pichette lui donne le texte à lire, lise le texte ensemble, il retravaille le texte, Pichette le modifie, et puis, comme écrit Pichette dans son magnifique texte « Tombeau pour Gérard Philippe », puisqu'il a écrit ça après la mort de Gérard Philippe, puis un matin, tel un peintre qui distribue les couleurs, il, Gérard, disposait la palette de la voix, et fort d'un ton, il se lançait, et mon oreille croyait voir les demi-teintes de l'amour, des éclats de joie au soleil, un camailleux de tristesse nocturne, la raison du poème sur un fond de folie. Donc, on a vraiment affaire à une écriture conjointe. Alors, ça, c'est ce qui fait l'événement. J'ajouterais juste pour mémoire que ce qui fait l'événement aussi à Chaillot en 52, c'est que Vilar et Gérard Philippe, dont c'est la première mise en scène, commandent une scénographie à Alexandre Calder, excusez là aussi du peu. Il y a donc sur la scène de Chaillot d'immenses mobiles et puis un stabile qui donne toute sa modernité finalement au spectacle. Alors peut-être qu'on peut entendre les mobiles, ça invite à l'écoute hein, aussi.
Dans cette pièce de Pierre-Henri.
Voilà.
Donc cette bande originale hein, du film de Mobile de Calder, donc une pièce de Pierre-Henri, on va peut-être écouter tout de suite un extrait de Nucléa Joliet de Vol.
D'une italienne, c'est-à-dire d'une répétition à la table, peut-être chez Gérard Philippe.
Le petit jour.
Cocorico.
L'horizon monte jusqu'au ciel de l'enfer. Je sue des bombes.
Alors, dans ce petit extrait, ce qui est amusant, c'est de voir que même dans une italienne où ils auraient pu se contenter de lire les didascalies en disant bruit de mitraillette, chant d'oiseaux, etc., emportés par le mouvement du texte, ils se mettent à jouer les didascalies, à faire entendre des bruitages qu'ensuite on entendra enregistrer et diffuser donc par la stéréophonie dans toute la salle. Donc ça montre bien que pour cette pièce, finalement, tout était permis vocalement et que le défi, c'était d'arriver à faire fonctionner ensemble à la fois les bruitages, les voix et la musique de Maurice Jarre. Qu'est-ce qui se passait vraiment dans la salle quand même et ce qui a frappé les spectateurs, c'est que en plus de la musique, on entendait en effet des bruits et pour la première fois dans ces bruits, on les entendait venant de partout dans la salle. On entendait des avions qui passaient par-dessus les spectateurs, on entendait des bruits de bottes, des chiens qui aboyaient, ça venait de derrière le cadre. Donc il y a eu vraiment des sensations acoustiques incroyables au cours du spectacle. Alors évidemment, beaucoup de choses étaient enregistrées et il y a eu un travail en studio important, préalable au spectacle, qui s'est fait en lien avec l'ingénieur dont on parlait tout à l'heure, Jean-Wilfried Garrett, et Michel Pollack, tout jeune réalisateur, producteur à l'époque, a eu l'idée de cacher un micro et il a enregistré à l'insu de l'équipe des répétitions où on va entendre Gérard Philippe et Jean-Wilfried Garrett travailler le son. Donc on voit bien qu'il s'agit pour Gérard Philippe dans ce travail-là de régler des rythmes, de régler des tempos, d'arriver à composer, d'être lui-même le chef d'orchestre en fait de tous les éléments sonores du spectacle. Alors écoutons un extrait de Entrée des auteurs avec Michel Pollack.
Écoute Gérard, je te dis tout de suite, il y a un truc qui me gêne terriblement là-dedans, c'est que tu vas avoir un effet de cinéma, tu comprends, sur la scène. On va entendre ta voix, qui est une voix dite à faible niveau, nécessairement, ce timbre-là. On va l'entendre suramplifié et personne ne peut douter un seul instant qu'il s'agit d'un trucage, tu comprends? Il me semble que ça fait une rupture d'ambiance. Sur la... Ça t'est égal?
Oui, ça fait rien.
Bon. Alors fais-moi le cocorico à cette distance-là, la même, tu bouges pas, c'est nous qui allons truquer.
Cocorico!
Tu peux le crier au contraire.
Bon.
Cocorico!
Coclico! Coclico!
Une balle morte atterrit sur mon livre d'heures. Dans les coudrets en cendres, les démons se détendent. Les roseaux tremblent, brume, déjà la nuit.
L'inter des fleuves, F comme fulgure, L comme Lucifer,
tout,
allô.
Tout ça, c'est enregistré.
Tout ça est enregistré.
L'ensemble.
Oui. Et alors, je veux qu'il y ait vraiment l'un et l'autre qui
continuent. Sans solution de continuité, oui.
Oui. Mais un petit... Tu les laisses parler l'un à la place de l'autre de temps en temps, mais ils n'ont pas l'air de se donner la place.
Oui.
Tu comprends ? Bon, alors ça, vous le ferez sans moi, jusqu'à la page 8, planète, jusqu'à maman. Vous y êtes ? Cependant, amant, vous me donnerez un écho, mais pas un écho de cathédrale. Tu me suis ? Elle, elle est directe sur scène, hein ? Elle, elle crie maman sur scène. Vous y êtes ?
Oui.
Tout de suite après son blanc, autrement dit, ça doit donner ça. Martel en tête, paupières serrées, cœur sur la brèche, muscles au ventre. Maman, maman. Et à nouveau, sans trêve, sans arrêt, sans répit, et à la chaîne, esclave, se croyant montagne. Maman, maman. Et à volonté, comme le feu de Bibaud, et à perpétuité, tadadam, tadadam, ne rêvant que play, boss, à l'instar du pugilat grandiose des planètes, là tu chantes.
D'accord.
Et tu laisses un grand blanc pour qu'elle dise sa phrase en direct. Mais, je dis un blanc, mais c'est pas vrai, parce que en dessous, tu me mettras deux mamans. Pendant tout ce texte, on entendra...
Pendant quel texte ?
Maman, oh, touche-moi de tes yeux, etc. Oh,
alors on fera deux mamans à blanc.
À blanc, là-dessus, déchirant, lointain, elle appelle dans les terres, au lieu d'appeler sur terre, comme elle le fera sur scène, ça
oui.
sera un maman.
D'accord.
Hmm ? Je vais te les enregistrer d'ailleurs après. C'est moi qui les ferai.
Florent de Rex.
Ils abordent tout de suite les trois grands aspects sur le traitement du son, à savoir l'espace, le temps aussi, et aussi le timbre. En fait, c'est les trois grands sujets sur lesquels on peut travailler après sur le son et qui sont abordés. En fait, c'est vraiment étonnant de voir ça.
Et l'autre, peut-être le dernier aspect sur lequel on peut insister en termes de voix, c'est que il y a aussi un travail de cœur parlé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, dans cette pièce qui a des moments collectifs, un travail de cœur parlé très élaboré. On peut peut-être écouter donc un autre extrait de l'italienne dont on a parlé tout à l'heure.
Cueillez de ses œillades sur la haute mer, suivez sa navigation, sa circulation. C'est au cœur qu'elle descend et au cœur qu'elle monte.
Passé parmi les luminaires.
Moroja! Voici fraîche en allée sur les sanglots antiques.
Moroja, sans autre protection que celle de tes seins et de tes mains nues.
Et qui te lève, Moroja, et qui te met en tête de rêver au seul mot de jeunesse, comme ressuscitante et comme réélue.
Nous avons idée.
Moi qui faisais le pain.
Et moi, le débardageoile.
Moi, les pinzères.
Moi, des citrons à la sauvette.
Moi, la crieuse.
Et moi qui réglais la grande sur la petite aiguille. Pour l'amour de midi et l'amour à minuit.
Nous qui élevions l'abeille et le poisson et menions paître les moutons.
Oh, Moroja, nous avons idée.
Que tu circules à la proue de chaque songeur.
Et que chacun voudrait retourner en arrière. Revenir à l'école.
Alors, cette pièce a évidemment provoqué pas mal de remous dans le public. Il y a eu une attaque de Chaillot par les lettristes qui ont voulu perturber le spectacle. La presse a été... plutôt mitigé. Il y a eu quelques articles très positifs, mais la plupart trouvaient ça assez grand-guignolesque, il faut reconnaître. Quant au public, il était plutôt partagé aussi, mais avec vraiment, comment dire, alors les mêmes remarques sur la musique empêche d'entendre bien les voix, par exemple, mais une appréciation assez forte positif de l'expérience de la stéréophonie.
On est dans les années 50, donc tout cet élargissement des palettes sonores en fait que permet la technologie, on l'a avec Villard et Maurice Jarre, mais Jarre va ensuite partir vers d'autres aventures avec le cinéma, mais il y a plein d'autres chercheurs et d'autres compositeurs qui, eux aussi, continuent à explorer ces différents espaces du son, hein, Michael Levinas.
On assiste même à cette préoccupation qui se passe dans cette salle de Jean Villard, me semble obéir à une problématique. Et donc, évidemment, le micro apparaît naturellement dans cette problématique, y compris dans éventuellement les malentendus dans la manière dont un homme comme Villard, même et Philippe, pouvait imaginer la créativité dans un monde où l'espace et la voix changeaient de fonction. Par conséquent, je me demande si cette réflexion ne serait pas plutôt une question de relation entre le monde du théâtre, le monde du cinéma. Et on retrouve cette question-là dans le domaine politique. Encore très récemment, il y a quelques jours, j'ai entendu les discours des hommes politiques des années 58, les discours des hommes politiques des années 10, la manière dont la voix passe, le rôle de la voix, la langue, la prononciation. Et alors là, il y a un fait objectif, je ne sais pas si c'est une question de progrès, mais en tout cas, il y a un monde qui va diffuser autrement. Donc aujourd'hui, le monde, même cette notion de radio et de haut-parleur, explose avec la notion de l'accès personnalisé au son par Internet. Mais enfin, tout de même, il me semble que la question qui se pose là, effectivement, est une confrontation de relations art-science-technique, théâtre-technique, espace-technique. Et on trouve à l'époque la Sequenza de Berlioz, il y a tout de même aussi cette conférence de Artaud, ces cris au théâtre du Vieux Colombier, qui ont beaucoup, beaucoup marqué la musique contemporaine. Il y a la naissance de la musique électroacoustique, il y a la création du théâtre radiophonique, et l'influence...
Le domaine musical
ne travaille pas tellement sur le son, il travaille sur la modernité dont le son fait partie. Oui. Et d'ailleurs, la question de la crise de l'opéra ou la fin pendant une certaine période de l'opéra, la question de la relation du texte et du metteur en scène sont tout de même des problématiques extrêmement vertigineuses.
Et Michael Levinas, ce sont là, pour le coup, des problématiques qui sont absolument au cœur de vos, de votre processus compositionnel. Vous travaillez sur la question de l'espace dans l'écriture même de vos œuvres, ne serait-ce qu'à l'opéra, les opéras que vous avez composés. Il y a cette idée aussi que par l'écriture elle-même, l'espace surgit.
Oui, bah, effectivement, l'espace s'écrit. La question de la relation entre écriture et son se pose également à travers tout ce que j'entends. Et également la question du texte, le principe du texte au théâtre, le texte à la musique, la relation du lettrisme et du texte, et la relation de la langue et du lettrisme. Voilà, je veux pas tout mélanger. Mais enfin, il me semble que nous sommes un peu... Il y a quelque chose de très sismique. Et effectivement, en 82... quand on a parlé de la création des œuvres radiophoniques au MIDEM, avec des compositeurs comme Hugues Dufour d'ailleurs, et dans le voisinage de Maurizio Kagel à cette époque-là, et de Stockhausen, et de quelques autres, ces questions-là ont été déjà posées avec beaucoup d'incertitudes et une difficulté à cadrer ces choses-là. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a en tout cas une corrélation entre la notion de progrès technologique et ces phénomènes-là, ça c'est objectif.
Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de ce premier opéra qui date de 85, je crois, la conférence des oiseaux, qui était là aussi un spectacle musical qui faisait intervenir du chant, du théâtre, un récitant, et puis aussi donc une bande magnétique.
La conférence des oiseaux était donc une musique, je crois, enfin je l'espère, une musique qui est née à la radio, d'une part de ma grande fréquentation des techniques de mixage, des techniques de fondu enchaîné, de chintage, comme on vient encore de l'entendre dans l'émission à l'instant, de montage. Et une nuit, j'ai donc fait avec plusieurs acteurs une soirée d'improvisation sur des textes, d'ailleurs avec des acteurs qui venaient du TNP, sur la conférence des oiseaux, qui était le texte adapté de Carrière. Et l'écriture impliquait le bruitage, la langue intermédiaire, comme vous venez de l'entendre chez Jean Villard, une langue française qui intègre, mais Strehler l'a fait également au Piccolo Théâtre, des bruitages de la langue, mais d'une langue qui reste une langue, qui ne sont pas du lettrisme. Et on passe d'un lieu à l'autre, comme au cinéma. Et c'est une forme peut-être d'opéra, point d'interrogation.
Thank you.
Un extrait donc de votre œuvre, Michael Levinas, La conférence des oiseaux.
On est dans un immense espace où la huppe interpelle tous les oiseaux du monde. Et ensuite, l'espace va doucement changer vers un passage où il y aura un écho, une polyphonie d'un corps sur lui-même, le corps, l'instrument, qui va créer l'envol des oiseaux vers un au-delà. D'ailleurs, dans la suite de ce spectacle, on va brusquement se trouver par un très léger changement, inconcevable dans une structure d'opéra ou de théâtre à scène. Mais l'homme de théâtre, le compositeur, est l'homme qui manie le micro et qui travaille sur la sonorisation, qui est un homme d'aujourd'hui, mais je pense qu'à Épidore, on l'entendait aussi, eh bien, il va écrire la prononciation, il va écrire l'espace. Alors, est-ce qu'il faut écrire l'opéra? Est-ce qu'il faut écrire le théâtre? En tout cas, nous sommes dans une civilisation de l'écriture en même temps que de l'espace.
Et dans une génération aussi, une époque où des ensembles de musiciens s'approprient, prennent en charge aussi, prennent pour eux dans leur propre démarche artistique, cette pensée des espaces, du son au théâtre et à l'opéra. Et c'est un peu la marque de fabrique hein, de l'ensemble musical Le Balcon.
C'est là d'ailleurs, la conférence des oiseaux a été créée par, je dirais, l'ancêtre du balcon, si je peux me permettre, qui était l'ensemble itinéraire de la période spectrale. Et on va dire une période, non pas le passé n'est pas glorieux toujours, mais même il s'est passé des choses importantes là. Et évidemment, dans la rencontre, je me retrouve à côté de mon ami du balcon. C'est évident que le balcon, qui fait aujourd'hui un gros travail lyrique, travaille dans ce sens, si je ne me trompe pas. C'est un point de rencontre pour moi fondamental.
Et Florent de Rex, on a eu envie, en fait, pour cette conférence, de rendre compte, par des grandes thématiques, en quelque sorte, quelles étaient les grandes directions, en fait, que prend l'ensemble Le Balcon. Fondé en quelle année, cet ensemble ?
Fondé il n'y a pas tellement longtemps, en 2008. En fait, Le Balcon, c'est un... On pourrait résumer ça comme un collectif qui réunit tout type de métiers issus du spectacle vivant et qui, moi, à mon sens, c'est un reflet assez intéressant de ce que, en fait, finalement, le Conservatoire de Paris peut engendrer, en fait. Puisque c'est vrai qu'au Conservatoire de Paris, on va trouver tout type de classes. Les classes d'instrumentistes, évidemment, c'est celles qu'on connaît le mieux. Mais ensuite, les classes d'érudition, les classes d'écriture, les classes de composition, bien sûr. Et aussi les classes qui forment les musiciens, qu'on appelle les musiciens ingénieurs du son, dont je suis issu. Et en quelque sorte, le balcon qui, au début, pour les gens qui nous suivaient, voyaient ça comme une espèce d'ovni hors des institutions, est finalement, en fait, le fruit de l'institution par excellence, à savoir le Conservatoire de Paris, et 6 personnes en tout. Par rapport à ce que disait Michael, c'est un des aspects sur lequel on se retrouve beaucoup, je crois, dans la musique de Michael Levinas et qui nous ont amené naturellement à travailler avec des créateurs. C'est en fait par le son et par l'espace comment on va sculpter dans l'écriture dramatiquement un personnage.
Alors je propose peut-être qu'on entende tout de suite une des réalisations de votre collaboration, un des fruits de votre collaboration autour de la métamorphose de Michael Levinas d'après Kafka. Puis ensuite on pourra le commenter. Un extrait donc de La Métamorphose de Michael Lévinas. Florent Derec, qu'est-ce qui se passe? Comment vous êtes intervenu sur l'œuvre de Michael?
Déjà, tout d'abord, pour réagir là sur ce qu'on vient d'entendre, je pense qu'il faut expliquer ce qui se passe en fait dans le théâtre, puisque là, les gens qui écoutent ça sont à la radio, donc dans leur voiture ou avec leurs enceintes chez eux. Michael a imaginé, donc là, il s'agit du personnage de la sœur dans La Métamorphose de Michael, d'après Kafka. Et le personnage de la sœur, en fait, est un personnage par lequel le travail d'écriture, en fait, vous avez sculpté, en fait, dramatiquement, le personnage dans l'écriture, en fait. Il fallait voir, en fait, Michael faire répéter Élise Chauvin, qu'on entend là, en studio. Vous la faisiez tourner sur elle-même, en répétition, et afin de créer une, on pourrait appeler ça une diction giratoire. Voilà.
C'est en travaillant avec Élise Chauvin et avec l'équipe du balcon et la sophistication de la voix qui tourne dans l'espace, que j'ai compris qu'il y avait un insecte qui était Grégor, mais qu'il y a un deuxième insecte qui est la sœur, et que finalement Kafka, en disant qu'elle rentre, qu'elle sort, qu'elle rentre, qu'elle sort, il lui donne le mouvement de l'animal. C'est vraiment un phénomène caractéristique théâtral.
Et sur la question du tournoiement, la soprano donc tourne sur elle-même, mais il faut dire ce qu'on entend dans la salle, parce que le son se déploie en fait, et on a un double effet rotatif, déjà qui est spatial, puisqu'on va avoir la voix qui tourne tout autour du public, et notamment, donc là on a donné ça au Théâtre de l'Athénée, donc dans un théâtre à l'italienne, donc ça fait une impression immersive hallucinante, mais qui tourne aussi avec des traitements informatiques, avec un tournement en modulation. Absolument. Et donc du coup, c'est ça qui va venir en fait caractériser dramatiquement le personnage. Et voilà, c'est un des aspects sur lesquels on peut travailler au balcon par rapport au son, puisque là, il s'agit de sonorisation franche.
Alors, vous vouliez, Florent Derec, nous faire écouter un autre travail que vous avez entrepris avec un compositeur italien presque contemporain de Michael Lévinas.
Vous êtes Chiarino, très bien. Chiarino, j'ai créé ses œuvres en France. Je le connais bien.
Salvatore Chiarino, donc, qui a monté une œuvre qui avait eu un gros succès à la Cité de la Musique en 2002, je crois. Mais c'est une œuvre plus ancienne, Lohengrin. Une action invisible, comme il le dit, pour soliste, instrument et voix, d'après Jules Laforgue. On va écouter peut-être tout de suite l'extrait et revenir dessus.
Que silencio! Elsa? 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 Elsa. 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 Elsa? 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 Credo di essere innocente.
Un crudele equivoco.
Mio Dio, quanti pettegolezzi!
Elsa? Ora.
Il s'agit de l'opéra Lohengrin, donc de Salvatore Chiarino, qu'on a donné l'année dernière au Théâtre de l'Athénée, et ça reflète en fait un travail très très différent qu'on fait au balcon, à savoir la sonorisation de pièces qui ne sont pas écrites, sonorisées en fait à la base. Et donc on a entendu un extrait avec un comédien en fait qui est le personnage unique de cet opéra, Johan Lessen là en l'occurrence, et qui donc reprend voilà la légende de Lohengrin, mais vu par en fait Elsa, son épouse, et qui est dans un hôpital psychiatrique, ça va pas très bien pour elle quoi. Et on est arrivé avec le balcon à la musique de Chiarino par une pièce qui s'appelle Introduzione alla scuola, dont on parlait tout à l'heure, et nous ça nous a fait poser des questions qui sont en lien avec l'acoustique des salles dont vous parliez tout à l'heure, des problèmes de conception, voilà, il peut y avoir plein de choses. Et un des aspects du balcon a été de sonoriser des pièces écrites non sonorisées, mais d'en apporter une certaine lecture par la manière de repenser le geste instrumental pour les instrumentistes et aussi beaucoup pour les voix, puisque là on a entendu la musique de Charino, mais le balcon joue toutes les musiques, Lévina, Charino, mais Debussy, Mahler,
Rimsky-Korsakov, hein, récemment.
Là, on joue beaucoup la symphonie fantastique en ce moment, et sur des opéras où on va faire intervenir de la voix, c'est vrai que le travail de tout ce qui a pu être appris au conservatoire pour l'émission de la voix pour un chanteur par exemple rentre dans un processus où on désapprend pour refaire, en fait. Alors, c'est pas quelque chose qu'on brandit comme un manifeste, on va dire. On sonorise pas tout pour sonoriser. On joue des pièces qui sont écrites pour être sonorisées, d'autres qui ne le sont pas, et qui, nous, on trouve que c'est mieux sonorisé parce que c'est plus fort, mais pas que. Mais en l'occurrence, la musique de Charino qui fait appel à des gestes instrumentaux extrêmement précis, extrêmement fins, on est tout de suite dans la problématique de la salle très souvent, en fait, trop grande, qui va pas permettre de lire ça. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aborder ça sous l'aspect artistique et pas forcément de l'esthétique. Et quand je parle de la sonorisation esthétique, j'entends ce dont on parlait au tout début d'émission, typiquement à l'opéra, les grandes maisons d'opéra qui sonorisent les chanteurs, parce que la salle est trop grande, on n'entend pas le texte. C'est souvent des questions d'intelligibilité. Et on va vouloir coller, en fait, à une esthétique de transparence. En gros, pour faire simple, ne pas entendre la sonorisation, mais que si on la coupe, on est dans les choux. En parlant aussi d'esthétique de sonorisation, on peut penser aux scènes plus classiques, aux scènes rock, aux scènes tout ce qu'on veut, avec très souvent des sonorisations franches et massives, frontales, souvent stéréo. Et nous, la manière d'aborder ce répertoire non sonorisé dans des salles dites classiques de concert, pour nous, ça va être d'apporter une lecture, en fait, sur la manière de repenser le geste instrumental et la manière d'émettre, en fait, le son, en l'occurrence pour la voix.
Joe Miller. Bob. Mes réconforts. Soyez amis. Bob. Joe.
Milord.
Soyez amis. J'ai du retard. Pardonnez. Le visage dans l'escalier. Pardonnez. Joe.
Milord.
Bob. Pardonnez. Dans la tour, le visage. Bougie. T'aime ce soir. T'aime ce soir. L'amour. L'amour. Joe.
Milord.
L'amour.
Parole musique, c'est une pièce de Beckett, mise en musique par Morton Feldman. Et Beckett, il était connu pour avoir été assez réticent toute sa vie pour que ses textes soient mis en musique. Là, ce qui est étonnant, c'est que, étrangement, dans cette pièce, le personnage de parole qui est représenté par un petit ensemble instrumental, ce personnage de musique, Beckett a laissé au compositeur une liberté totale d'écriture, ce qui est assez étonnant quand même. Donc il y a une première version, je crois, dans je sais plus quand, mais en fait je sais que c'était son neveu qui avait fait une première version, John Beckett. Et donc du coup nous on a donné à entendre, et s'est posé forcément la question de la représentation, puisqu'il s'agissait d'un spectacle, d'une pièce radiophonique. Et donc si on en écoute un extrait, c'est un peu l'effet Vache-Kiri, quoi. Donc du coup on en a fait une captation, et là on le réécoute à la radio. Voilà, donc il s'est posé, donc on est dans un théâtre. Qu'est-ce qu'on donne à voir, forcément, pour une pièce radiophonique, et surtout, qu'est-ce qu'on donne à entendre, et de quelle manière, puisque les possibilités de diffusion avec les médias haut-parleurs dans une salle de théâtre laissent des possibilités bien plus importantes qu'à la radio, où la restitution est sur deux enceintes en stéréo. Mmh. Donc, voilà, nous, on a travaillé sur tout un... toujours avec les équipes son du balcon, sur une recréation sonore, en fait, par-dessus cette pièce. Donc on a travaillé sinon sur la musique de Feldman, pas celle de Beckett, neveu, où les gens étaient dans le noir, et avec le personnage principal qui a un espèce de vieux roi fou dans son château, et qui a devant lui ses deux saltimbanques, ses deux amis, comme il dit, parole et musique, qui dialoguent et qui se chamaillent, et Beckett va finalement laisser entendre que c'est musique qui prend le pas sur parole, à la fin.
Eh bien, nous pourrions rester encore longtemps à vous écouter, tous les quatre, Florent de Rex, Michael Levinas, Marie-Madeleine Mervanroux et Joël Hudevol. Merci à vous donc, mais nous devons refermer cet À pleine voix, enregistré en public, donc depuis le petit auditorium de la Bibliothèque nationale de France François Mitterrand, dont on remercie les équipes Jean-Loup Graton, Frédéric Ramirez, William Miconnet et Alain Barré. Et puis bien sûr, un grand merci aux équipes de Radio France, Benjamin Perru, Julien Bourdet, Mathieu Leroy et Olivier Dupré. Merci également à notre réalisatrice Christine Amado et à notre précieuse collaboratrice Françoise Monteil. Cette émission est réécoutable sur le site La Pleine Voix, où vous pouvez également vous abonner au podcast et nous envoyer des petits mots. Et la semaine prochaine, comme promis, eh bien nous retrouverons la magnifique soprano Sabine De Vielle, qui nous parlera, ça va sans dire, pour À Pleine Voix, de sa voix. D'ici là, très bonne fin de journée et très bon week-end à l'écoute de France Musique.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.